Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Au troisième des 23 épisodes de la lecture que donnait Marcel Pagnol du Château de ma mère en 1959 sur les ondes de la RTF, on retrouvait le petit Marcel et son nouvel ami Lily, le petit paysan, en compagnie duquel, dans les collines entourant le massif du Garlaban qui surplombe Aubagne, il passe les meilleurs moments de sa jeune existence. Des journées entières à chasser et à découvrir les merveilles et les mystères du Garlaban, de ses roches et de sa garrigue, jusqu'à en oublier Paul, le petit frère, dont Marcel, comme nous allons l'entendre, aurait tort de croire qu'il pourrait s'ennuyer, privé de sa présence. Le Château de ma mère, lu par Marcel Pagnol, troisième des 23 épisodes, diffusé le 21 mars 1959 sur France 2 régionale.
Veuillez écouter Le Château de ma mère, une émission de Marcel Pagnol de l'Académie française, présentée par Pierre Loss.
Le jeune Marcel et le jeune Lily, après avoir attrapé avec leur piège un gros rat, puis un grand scolopendre, découvrirent un jour une chouette blanche qui, rassemblant ses dernières forces, repoussa violemment l'engin et d'un seul coup s'arracha la tête.
Après la première tournée, il fallait attendre jusqu'à 5 ou 6 heures pour laisser à nos pièges le temps de travailler. Alors, pendant l'après-midi, nous allions explorer des crevasses, cueillir le pèbre d'ail des escaupres ou la lavande du Tahomé. Mais bien souvent, étendus sous un pin entouré de broussailles, car comme les bêtes sauvages, nous voulions voir sans être vus, nous bavardions à voix basse pendant des heures. Lily savait tout. Le temps qu'il ferait, les sources cachées, les ravins où l'on trouve des champignons, des salades sauvages, des pins amandiers, des prunelles, des arbousiers. Il connaissait au fond d'un hallier quelques pieds de vigne qui avaient échappé au phylloxéra et qui mûrissaient dans la solitude des grappes aigrelettes, mais délicieuses. Avec un roseau, il faisait une flûte à trois trous. Il prenait une branche bien sèche de clématite, il en coupait un morceau entre les nœuds et grâce aux 1000 canaux invisibles qui suivaient le fil du bois, on pouvait la fumer comme un cigare. Il me présenta au vieux jujubier de la Pondrane, au sorbier du Gourde Roubaud, aux quatre figuiers de Précatory, aux arbousiers de la Garette, puis au sommet de la Tête Rouge, il me montra la Chantepierre. C'était juste au bord de la barre une petite chandelle de roche percée de trous et de canaux. Toute seule, dans le silence ensoleillé, elle chantait selon les vents. Étendue sur le ventre et dans la baue qu'est le thym, chacun d'un côté de la pierre, nous la serrions entre nos bras. Et l'oreille collée à la roche polie, nous écoutions les yeux fermés. Un petit mistral la faisait rire, mais s'il se mettait en colère, elle miaulait comme un chat perdu. Elle n'aimait pas le vent de la pluie, qu'elle annonçait par des soupirs, puis des murmures d'inquiétude. Ensuite, un vieux cor de chasse, très triste, sonnait longtemps, au fond d'une forêt mouillée. Lorsque soufflait le vent des demoiselles, alors c'était vraiment de la musique. On entendait des chœurs de dames habillées comme des marquises qui se faisaient des révérences. Ensuite, une flûte de verre, une flûte fine et pointue, accompagnait là-haut, dans les nuages, la voix d'une petite fille qui chantait au bord d'un ruisseau. Mon cher Lily ne voyait rien, et quand la petite fille chantait, il croyait que c'était une grive, ou quelquefois un ortolan. Mais ce n'était pas de sa faute si son oreille était aveugle, et je l'admirais toujours autant. En échange de tant de secrets, je lui racontais la ville, les magasins où l'on trouve de tout, les expositions de jouets à la Noël, les retraites au flambeau du 141e, et la féerie de Magic City où j'étais monté sur les montagnes russes. J'imitais le roulement des roues de fonte sur les rails, les cris stridents des passagères, et Lily criait avec moi. D'autre part, j'avais constaté que dans son ignorance, il me considérait comme un savant. je m'efforçais de justifier cette opinion, si opposée à celle de mon père, par des prouesses de calcul mental, d'ailleurs soigneusement préparées. C'est à lui que je dois d'avoir appris la table de multiplication jusqu'à 13 fois 13. Je lui fis ensuite cadeau de quelques mots de ma collection, en commençant par les plus courts. Javel, empeigne, ponction, jachère. Et je pris à pleine main des orties pour l'éblouir avec vésicule. Puis je plaçai vestimentaire, radicelle, désinvolture et l'admirable plénipotentiaire, titre que je décernais bien à tort au brigadier de gendarmerie. Enfin, je lui donnai un jour calligraphié sur un bout de papier, anticonstitutionnellement. Quand il eut réussi à le lire, il m'en fit de grands compliments, tout en reconnaissant qu'il ne s'en servirait pas souvent, ce qui ne me vexa en aucune façon. Mon but n'était pas d'augmenter son vocabulaire, mais son admiration, qui s'allongeait avec les mots. Cependant, nos conversations revenaient toujours à la chasse. Je lui répétais les histoires de l'oncle Jules, et souvent, les bras croisés, adossés contre un pin et mordillant une ombelle de fenouil, il me disait gravement « Raconte-moi encore les Martavel. » Je n'avais jamais été si heureux de ma vie, mais parfois le remords me suivait dans la colline. J'avais abandonné le petit Paul. Il ne se plaignait pas, mais je le plaignais en imaginant sa solitude. C'est pourquoi je décidai un jour de l'emmener avec nous. La veille, je prévins les chasseurs que Lily et moi ne partirions pas de bonne heure, mais beaucoup plus tard, à cause de Paul, et que nous les rejoindrions à la baume de Passe-Temps où nous devions déjeuner. Ils parurent déçus de cette défection et tentèrent, mais en vain, de me faire changer d'avis. Sans rien dire, je savourais mon triomphe. Eux qui avaient refusé de me convier à l'ouverture, voilà qu'ils regrettaient mon absence et que je devenais indispensable. Ainsi doivent se réjouir les Américains, quand nous les appelons à notre secours, après avoir chassé leurs ancêtres sous des prétextes politiques ou religieux. Le matin, vers 6 heures, nous emmenâmes Paul encore mal éveillé, mais assez joyeux de l'aventure, et il marcha bravement entre nous. En arrivant au petit œil, nous trouvâmes pris au premier piège un pinson. Paul le dégagea aussitôt, le regarda un instant et fondit en larmes, en criant d'une voix étranglée « Il est mort, il est mort !» Mais bien sûr, dit Lily, les pièges, ça les tue. « Je ne veux pas, il faut le démourir !» Il essaya de souffler dans le bec de l'oiseau, puis le lançant en l'air pour aider son essor. Mais le pauvre pinson retomba lourdement, comme s'il n'avait jamais eu d'aile. Alors le petit Paul ramassa des pierres et se mit à nous les lancer, dans un tel état de rage que je dus le prendre dans mes bras et le rapporter à la maison. Je fis part à ma mère du regret que j'avais de l'abandonner. « Ne t'inquiète pas pour lui, me dit-elle, il adore sa petite sœur et il a beaucoup de patience avec elle. Il s'en occupe toute la journée, n'est-ce pas, Paul ?»« Oh oui, maman !» Il s'en occupait en effet. Dans les fins cheveux frisés, il accrochait une poignée de cigales et les insectes captifs vrombissaient autour de la tête enfantine qui riait, pâle de terreur. Ou bien il l'installait à 2 mètres du sol dans la fourche d'un olivier et feignait ensuite de l'abandonner à son triste sort. Un jour, comme elle avait peur de descendre, elle grimpa jusqu'aux plus hautes branches et ma mère épouvantée vit de loin ce petit visage au-dessus du feuillage d'argent. Elle courut chercher l'échelle double et réussit à la capturer avec l'aide de la tante Rose, comme font parfois les pompiers pour les petits chats aventureux. Paul affirma qu'elle lui avait échappé et la petite sœur fut désormais considérée comme un singe capable des pires escalades. D'autres fois, il lui glissait dans le dos de la bourre de gratte-cul qui est la baie de l'églantier et que l'on nomme ainsi pour de bonnes raisons. Elle y gagna la réputation de pleurnicher sans savoir pourquoi. Il la calmait en la gavant de gomme d'amandier et lui fit même manger une pastille de réglisse qui ne sortait pas d'une pharmacie mais d'un lapin. Il me confia cet exploit le soir même car il craignait de l'avoir empoisonnée. Je lui avouai alors que je lui avais moi-même offert des olives noires encore tièdes, ramassées dans le sillage d'un troupeau de chèvres, et qu'il s'en était fort bien trouvé. Il fut charmé par cet aveu rassurant, et continua sans regret ses farces fraternelles. Mais, comme le grand Shakespeare devait me l'enseigner plus tard, « crime will out », c'est-à-dire que les crimes ne restent jamais impunis, si bien qu'un soir, après la chasse, je le trouvai dans notre chambre, sanglotant sur son oreiller. Il avait en ce jour fatal inventé un nouveau jeu dont les règles étaient très simples. Il pinçait fortement la fesse dodue de la petite sœur qui poussait aussitôt des cris perçants. Alors Paul courait comme éperdu vers la maison. Maman vient vite, une guêpe l'a piqué. Maman accourut deux fois avec du coton et de l'ammoniaque et chercha à extraire entre deux ongles un aiguillon qui n'existait pas, ce qui redoubla les hurlements de la petite sœur pour la plus grande joie du sensible Paul. Mais il commit la grande erreur de renouveler une fois de trop sa plaisanterie fraternelle. Ma mère, qui avait conçu des doutes, le prit sur le fait. Il reçut une gifle magistrale, suivie de quelques coups de martinet qu'il accepta sans broncher. Mais la remontrance pathétique qui suivit lui brisa le cœur, et à 7 heures du soir, il en était encore inconsolable. À table, il se priva lui-même de dessert, tandis que la petite sœur martyrisée et reconnaissante lui offrait en pleurant de tendresse sa propre part de crème au caramel. Ayant ainsi appris qu'il ne s'ennuyait pas une seconde, je triomphai fort aisément de mes remords et je le laissai à ses jeux criminels. Un matin, nous partîmes sous un ciel bas, posé sur les crêtes et à peine rougeâtre vers l'est. Une petite brise fraîche qui venait de la mer poussait lentement de sombres nuages. Mon père m'avait forcé à mettre sur ma chemise un blouson à manches et sur ma tête une casquette. Lily arriva sous un béret. L'oncle regarda le ciel et décréta « Il ne pleuvra pas, et ce temps est parfait pour la chasse. » Lily me fit un clin d'œil et me dit à voix basse « S'il fallait qu'il boive tout ce qui va tomber, il pisserait jusqu'à la Noël. » Cette expression me parut admirable, et Lily me confie avec une certaine fierté qu'il la tenait de son grand frère Baptistin. La matinée se passa comme à l'ordinaire, mais vers 10 heures, une ondée nous surprit près des barres du Taume. Elle dura une dizaine de minutes que nous passâmes sous les rameaux épais d'un grand pin. Mon père mit à profit ce repos pour nous enseigner qu'il ne fallait en aucun cas se mettre à l'abri sous un arbre. Il n'y eut par bonheur pas de coup de tonnerre et nous pûmes bientôt gagner la baume sourde où nous déjeunâmes. Nous avions tendu en chemin une 50aine de pièges et les chasseurs avaient abattu 4 lapins et 6 perdrix. Le temps s'était éclairci et l'oncle affirma « Le ciel s'est purgé, c'est fini !» Lily, encore une fois, me fit un clin d'œil, mais ne répéta pas la belle phrase. Après avoir battu en vain le volant du jardinier, les hommes nous quittèrent et prirent la route de passe-temps pendant que nous remontions vers le terrain de chasse. Tout en grimpant le long des éboulis, Lily me dit « Nous ne sommes pas pressés. Plus les pièges restent, mieux ça vaut. » Nous allâmes nous étendre les mains sous la nuque, au pied d'un vieux sorbier qui se dressait au centre d'un massif d'aubépines. « Je ne serais pas étonné, dit-il, si nous prenions quelques seyres ce soir, parce qu'aujourd'hui, c'est l'automne. » Je fus stupéfait.
Vous venez d'entendre « Le château de ma mère », une émission de Marcel Pagnol de l'Académie française, présentée par Pierre Loss.
C'était le 3e des 23 épisodes de la lecture que donnait Marcel Pagnol du Château de ma mère. Première diffusion le 21 mars 1959 sur France 2 régionale. À suivre.